Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
La question macro de la semaine, tout de suite, la Banque Centrale Européenne va-t-elle baisser ses taux en 2024? C'est incroyable, en fait. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que malgré la globalisation de l'économie, malgré tout ce qui s'est passé, on est encore pendu aux mots que va déclarer le patron de la Fed. Quand j'ai démarré sur le marché, il y a plus de 40 ans, c'était déjà ça. C'est encore ça. Pourquoi tout le monde regarde le taux d'intérêt américain? Ça me fascine vraiment. Encore aujourd'hui, alors que l'économie est globalisée, il y a la zone euro, il y a la Chine, il y a tout ça, Valentine.
Ça joue après énormément sur les devises, hein, parce que là, si on regarde les différentiels de taux entre l'Europe et les États-Unis, ou encore entre les États-Unis et le Japon, on voit après que ça pénalise énormément les devises. Et après, si...
Donc vous dites que c'est parce que ça touche les devises que tout le monde le regarde? Parce que l'économie américaine a une place importante aussi, j'imagine.
Et puis après, la bourse américaine.
Il y a des corrélations importantes sur les actifs risqués, entre tous les différents actifs risqués. Je dirais même plus, une économie qui est plus financiarisée, on commence à avoir plus de corrélations sur les actifs, entre les actifs financiers. Mais il y a quand même des différences extrêmement importantes entre les États-Unis et l'Europe. Aux États-Unis, on a 80% du financement de l'économie qui passe via les marchés. En Europe, on est encore à 20%. Et ça marque quand même une dépendance.
C'est des vrais chiffres, ça, vous les avez inventés?
Non, ce sont des vrais chiffres. Chiffres.
C'est impressionnant. Oui,
premier tac de Marc Fiorentino contre Valentine depuis qu'il a fait l'émission.
Non, ce sont des vrais chiffres.
Non, parce que les
enfin
non, parce que ce chiffre,
c'est pas toujours les mêmes.
Ce chiffre, il est énorme.
Mais il est
énorme. Ben oui, il est fou.
Vous pouvez le répéter, parce que pour les gens qui n'ont pas...
L'économie américaine se finance...
Attention, Valentine a dit un truc intéressant. Allez-y.
L'économie américaine se finance à 80% via les marchés, ouais. Alors qu'en zone euro, on est une économie qui se finance beaucoup plus via le système bancaire. Les
Valentine, vous avez dit que l'inflation, on était trop optimiste, elle n'allait pas baisser aussi vite aux États-Unis. Qu'est-ce que vous pensez maintenant?
Je pense qu'on est toujours dans une séquence où l'inflation va rester extrêmement résiliente. Hein,
c'est pas ce que dit Amundi à cette management.
Si, on est toujours sur...
Ils disent que l'inflation...
Elle va recevoir une lettre de licenciement lundi matin à 9h.
On est toujours sur... De toute façon, si on regarde nos projections de l'inflation, on est toujours en ligne avec ce que pense... sur les prévisions de la Fed et avec un risque d'avoir...
Donc l'inflation va baisser quand même.
Oui, évidemment que l'inflation va baisser. Mais après, c'est dans quelle proportion elle va baisser.
Et
à quel rythme. Et surtout, pour quel coût de croissance elle va baisser. Donc aujourd'hui, si on regarde l'économie américaine, elle est résiliente. Pour différentes raisons. On a des changements structurels qui sont extrêmement importants par rapport au cycle précédent. Par exemple, si on regarde le soutien budgétaire, c'est inédit. Si on regarde le marché de l'emploi, on est toujours sur un marché de l'emploi.
Et si on regarde leur industrie, la tech, l'armement, l'énergie.
Si on regarde sur les entreprises, il y a des gains de productivité qui sont importants.
Énorme.
Et aussi, ce qu'on ne regarde pas forcément sur les marchés actions, c'est que je le regarde beaucoup du côté des obligations, les entreprises depuis le Covid sont extrêmement, extrêmement prudentes. La croissance de leur dette est très faible. Et ils sont très focalisés, préservation de leur marge, gestion des coûts et gestion du bilan au plus près. Et si on regarde les ménages aussi, la sensibilité du bilan des ménages au taux est très faible, hein, parce que les ménages, ils sont, contrairement à 2008, on était endettés à taux variable. Là, les ménages, ils sont à taux fixe. Le coût moyen du mortgage, il est à 3,6 et sur des maturités longues. Et si on regarde l'immobilier résidentiel, on a encore un changement structurel très important par rapport à 2008. Il n'y a pas de biens à vendre. Donc on est vraiment dans un environnement qui est très différent. Mais juste un dernier mot, on a l'impact...
Vous ne voulez pas laisser parler,
Patrice. Mais l'impact des taux...
Lui piquer les États-Unis, Marc, vous n'avez pas compris. C'est à elle, les États-Unis.
L'impact des taux est extrêmement visible juste sur les segments les plus vulnérables. Les ménages à bas revenus et les entreprises les plus fragiles qui ont les niveaux de dette les plus élevés.
Les ménages à bas revenus, Eric Lewin, il s'en fout complètement. C'est pas son sujet.
Globalement, ce ne sont pas eux qui consomment le plus, mais c'est quand même 30%
évidemment,
des ménages.
Évidemment, Eric, je ne comprends pas, c'est important.
C'est ce qu'on apprend en économie, la propension à consommer.
Oui,
que va faire l'inflation aux États-Unis? Que va faire la Banque Centrale Américaine?
Alors, vous avez parfaitement décrit l'exception américaine qui prévaut aujourd'hui.
Il ne répond pas à la question, hein.
Ah, si, il répond.
Mais je donne du contexte.
Oh, yes.
et qui fait qu'effectivement, la Fed et les taux américains constituent un ancrage pour le reste des pays développés. On le voit bien avec l'exemple, et indirectement, on peut prendre l'Allemagne, qui est quand même pas au meilleur de sa forme, et le taux allemand à plus de 2,50%, qui réagit un pour un, en quelque sorte, avec ce qui se passe aux États-Unis, alors qu'on pourrait faire un découplage relativement intéressant entre les deux. L'inflation américaine, ça fait depuis le mois de juillet 2023 qu'elle est au-dessus de 3%. Elle est même à 3,5%. Elle va rester encore à 3%, au-dessus de ces 3%, jusqu'en septembre, selon le scénario que j'ai un petit peu en tête. Alors, on va réduire sur les indices techniques, cœur, c'est-à-dire on enlève l'alimentaire, on enlève l'énergie. Et sur les deux indices cœur que suit la Fed, le core CPI et le core PCE pour les principe, on va être à progressivement de 5, de 6, de 7, de 8. Donc on va aller vers du 2,5, mais ce 2,5 il ne sera atteint pour tout le monde, pour tous les indices, qu'au premier trimestre 2025.
C'est votre anticipation?
C'est le scénario avec lequel on travaille.
Et du coup, baisse des taux aux États-Unis?
Alors la baisse des taux, il faut être patient, et c'est ce qu'a habilement présenté Powell, c'est-à-dire que, en fait, il a réussi le pari de dire je ne ferai rien, je ne baisserai surtout pas les taux, mais le dire d'une façon si douce et si gentille qu'il laisse des portes ouvertes pour la réunion du mois de décembre et puis après encore quelques baisses de taux.
Donc, vous dites rien avant décembre, vous?
C'est fort possible, rien avant décembre. Et il a même donné ce qu'on appelle le Fed put, c'est-à-dire en fait l'assurance sous risque, en quelque sorte, de la Fed. Si jamais le marché du travail se casse la figure, c'est-à-dire en fait une forte remontée bien au-dessus des 4% du taux de chômage, alors là, la Fed peut anticiper des baisses de taux.
Baisses de taux, quand ?
Baisse de taux, nous on attend 2 à 3 baisses de taux cette année plutôt.
Enfin, encore aux États-Unis, encore, vous attendez encore 2 ou 3 baisses de taux?
Ouais, 2 ou 3 baisses, ouais.
Ah ouais.
La question qu'on doit se poser vraiment pour moi aujourd'hui, la question simple, c'est est-ce que les conditions de financement aujourd'hui sont restrictives pour l'économie américaine?
Et vous dites non parce qu'il y a le budget
américain. Je dis c'est pas forcément évident parce qu'il y a toute une partie de l'économie américaine aujourd'hui qui est peu sensible aux taux. Si on prend par exemple tous les ménages les plus aisés, quand on a plus d'actifs que de passifs, et ben les hausses de taux c'est positif.
Il y a les dépenses budgétaires, c'est ce que
il y a les dépenses budgétaires et si on regarde les entreprises, les grandes entreprises, elles sortent d'une décennie de Covid, de taux bas. Elles ont pu refinancer leur dette et allonger la maturité moyenne. Le coût moyen de leur dette est bas. Et donc, les taux élevés vont mettre un certain temps avant d'impacter ces grandes entreprises.
Alors, tout ce qu'on a raconté sur ce plateau, qui était de dire... mais c'est pas tellement ça, c'est de dire au bout de 18 mois vous allez voir, il y a un décalage, la hausse des taux va avoir un effet incroyable sur l'économie au bout de 18 mois, 2 ans. C'était faux en fait.
Mais moi je
on l'a répété nous pendant des semaines,
oui,
moi,
oui. Compris. Non, et je resterai assez prudente avec le fait de penser qu'à un moment donné, on puisse pas avoir un ralentissement fort. Juste pour l'instant, on reste dans cette séquence où l'inflation est élevée et la Fed va devoir maintenir ses taux plus élevés plus longtemps pour faire baisser l'inflation. On est encore sur cette séquence. Mais il ne faut pas oublier que des taux plus élevés impacte l'économie. C'est juste que
on
le décalage, on le voit pas, on le voit.
On avait dit 18 mois, 2 ans.
Non, mais ça peut être beaucoup plus long parce qu'il y a des changements structurels qui sont importants. Du soutien budgétaire, on sort d'une période Covid où il y a eu un soutien budgétaire monstrueux. On sort d'une période de taux bas. Donc on est dans un contexte avec des changements structurels qui sont différents. Donc ce lag, ce décalage traditionnel entre hausse de taux impact peut être complètement bouleversé.
François, on a une petite minute. Est-ce que vous, en tant que gérant, vous regardez, vous êtes collé aux paroles de la Fed ou vous dites non, je regarde les fondamentaux des boîtes?
J'aimerais bien, mais en fait, la réalité, c'est qu'on est collé aussi, puisque ça impacte significativement les marchés. Il y a quand même un propos qui a été important dans les dernières communications. C'est vrai qu'il y a peut-être participé aussi du fait de faire passer un peu la pilule d'un retard sur les baisses de taux. C'est aussi la façon dont il a guidé sur la baisse de la taille du bilan de la Réserve fédérale. On aurait pu craindre que la Réserve fédérale diminue très vite, plus vite encore, la taille de son bilan. Et il s'avère qu'il a beaucoup temporisé là-dessus, de façon à rassurer un petit peu sur la liquidité dans le système. Et là, pour le coup, on le sait bien, les marchés sont bien piqués à la liquidité des banques centrales. Et donc, lorsque vous avez un signal comme celui-là, on vient un peu adoucir.
Ça vous a rassuré, vous,
c'est un peu rassurant. En tout cas, c'est ce qui a été sur les marchés. En tout cas, un facteur de soutien qu'on a eu quelques jours après, alors qu'on aurait pu s'inquiéter du retard de baisse de taux.